Mesdames, Messieurs, bonjour. Gérald Derange, je suis professeur à l'Université de Rouen et je remercie William Gilles de m'avoir fait l'honneur de me demander de présider cette séance. Donc il va débuter jusqu'à 11h15, je crois. Peut-être commencer par une petite anecdote par rapport à l'intervention de William Gine il y a quelques secondes. J'étais directeur d'un institut à l'Université de Rouen, l'IAE, et la secrétaire générale me dit « Mais il faut qu'on passe au journal officiel électronique ». Alors je dis « Bah oui, ce sera peut-être mieux, plus facile ». ».« Oui, mais vous vous rendez compte, là, on avait des étagères, on avait passé un temps fou à classer ces documents, à les lire quand même avant de les classer, elle avait beaucoup de retard ». Et je lui ai dit, bah, écoutez, faites un essai, vous laissez tout tomber, vous mettez tout au récupérateur de papier, et puis vous allez voir si ça vous manque au bout d'une semaine. Bah, au bout d'une semaine, elle n'avait plus du tout consulté ces papiers. Donc, si vous voulez, l'édition électronique permet bien sûr de libérer du travail pour des choses plus actives, mais comme l'Internet se développait et qu'il fallait nettoyer son ordinateur tous les matins, je ne sais pas si le bilan est positif par rapport à ce journal officiel. Enfin, trêve de plaisanterie. Je vais tout de suite donner la parole donc à William Gilles, qui réintervient. L'administration numérique en France, quel modèle juridique ?
Merci, Monsieur le Président. Rassurez-vous, je ne vais pas monopoliser la parole, juste cette intervention au début. Les évolutions liées à la société numérique nous incite à nous interroger sur le modèle d'administration et sur les transformations de son cadre juridique. En effet, traiter de l'administration à l'ère du numérique ne doit pas conduire à envisager uniquement la dimension technique. Cette préoccupation est certes réelle dans la mesure où l'évolution de notre administration vers une e-administration et même désormais vers une administration numérique conduit à appréhender des enjeux techniques. Cependant, la mise en place d'une administration numérique soulève avant tout des préoccupations d'un point de vue juridique. Il est donc indispensable de se demander dans quel modèle juridique s'inscrit l'administration numérique française. L'objectif est notamment de savoir si notre cadre juridique, qui a été bâti depuis plusieurs siècles, subsiste, ou s'il se fond au contraire dans un cadre commun à l'ensemble des pays qui conduisent une réforme d'une telle ampleur. Autrement dit, la standardisation technique de l'administration électronique entre les différents pays conduit-elle également à une standardisation juridique ou des spécificités demeurent-elles ? Une autre question est aussi de savoir, dans l'hypothèse où un cadre juridique harmonisé serait avéré, quelle a été l'influence de la France dans la définition de ces règles ? Le cadre juridique qui s'applique aujourd'hui à l'administration française trouve ses origines dans un modèle administratif qui a été forgé depuis plusieurs siècles. Cet ancrage ancien impacte inévitablement la façon dont se conçoit l'administration électronique en France. Si cette dernière a su se moderniser, elle le fait en tenant compte de cet héritage ancien. La France a su construire un modèle administratif qui soit porteur de valeurs et qui respecte des principes fondamentaux. Le développement de l'administration numérique n'échappe pas à ce cadre. La France souhaitant œuvrer en faveur d'une administration numérique qui soit respectueuse des droits fondamentaux. Cette volonté est apparue dès l'origine et a été constamment rappelée par la suite. En ce sens, le Premier ministre en exercice en 2002 affirmait que la société de l'information n'aura de sens que si elle est une société de l'information partagée, une société de l'information pour tous. C'est donc une république numérique, fidèle à la devise qui est aux fonctions de nos institutions, qui est au fronton de nos institutions, que nous voulons ancrer dans la société de l'information. L'objectif est donc de faire émerger une république numérique qui, conformément à l'article 2 de la Constitution, respecte le triptyque liberté, égalité, fraternité. Cette orientation qui perdure constitue un modèle que les autorités françaises souhaitent exporter. Le Premier ministre affirmant la volonté de la France de défendre cette vision d'une société de l'information, réconciliant solidarité et innovation, dans toutes les enceintes internationales où le débat sera ouvert. Cette préoccupation n'est certes pas nouvelle, puisque dès 1978, la France se dotait d'une législation destinée à concilier révolution informatique et nécessaire garantie des libertés. Cette orientation n'a cessé par la suite de se poursuivre avec la volonté de la France de garantir la protection de la vie privée. Depuis très longtemps, les Français ont majoritairement confiance dans leur administration et dans les usages que celle-ci peut faire de ses données personnelles. Il importe de s'assurer que cette confiance perdure à l'ère du numérique. Aussi, la France a-t-elle adopté un référentiel général de sécurité. En outre, la France, avec le plan France numérique 2012 ou le plan France numérique 2020, insiste sur la nécessité de renforcer la confiance numérique et pour ce faire de développer notamment la signature électronique. Cette sécurisation et la confiance qui en découle sont nécessaires pour garantir le maintien d'un certain degré de liberté dans l'utilisation des services en ligne. De même, toujours s'agissant du respect des libertés fondamentales, la France entend veiller à la neutralité d'Internet. L'administration française est également marquée par plusieurs principes qui régissent nos services publics, au premier rang desquels figure la trilogie qui a été définie par Louis Roland, à savoir l'égalité, la continuité et la mutabilité. Là encore, l'administration numérique n'échappe pas à ce cadre fondateur. Il ne fait aucun doute que les nouvelles technologies favorisent la continuité et la mutabilité du service public. Par exemple, la publication du journal officiel en ligne s'inscrit dans cette perspective. Désormais, l'ordonnance de 2004 prévoit la gratuité et la permanence de la mise à disposition au public du journal officiel, et cette mise à disposition gratuite et permanente s'opère par la version électronique. Des interrogations peuvent cependant se poser en ce qui concerne le respect du principe d'égalité. Certes, plusieurs exemples peuvent être pris pour montrer que le numérique participe au principe d'égalité. En ce sens, la reconnaissance de la valeur authentique de la version en ligne du journal officiel constitue une innovation technologique qui représente un immense pas en faveur du principe d'égalité. En effet, les distances sont désormais abolies, le journal officiel du jour est partout en même temps. Cependant, il est aussi possible de montrer à l'inverse l'existence d'un fossé technologique qui porte atteinte au principe d'égalité. Toutefois, même si les résultats sont parfois considérés comme insuffisants par certains, force est de constater que le modèle français déploie des moyens significatifs pour réduire la fracture numérique. Ce souci du renforcement de l'égalité se retrouve dans les discours des plus hauts représentants de l'État et dans l'octroi régulier de nouveaux crédits pour mettre la révolution numérique à la portée de tous. Cette volonté de réduire la fracture numérique se matérialise également par l'adoption de textes ou de mesures qui visent à favoriser l'égalité d'accès des Français aux téléservices. En ce sens, le législateur a adopté une loi en 2005 qui introduit une nouvelle obligation à l'égard des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics nationaux. Désormais, ces derniers doivent rendre accessible leur site Internet à tous, y compris aux personnes handicapées. L'obligation d'accessibilité porte sur l'accès de tout type d'informations sous forme numérique, quel que soit le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. La France a aussi développé un référentiel général d'accessibilité pour les administrations, dont l'objectif est de permettre une harmonisation de la présentation des sites Internet pour permettre l'accès des personnes, pour permettre leur accès aux personnes âgées et handicapées. De même, pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès aux nouvelles possibilités offertes par Internet, un tarif social a été développé. Mais la fracture numérique est également territoriale. Aussi, de nombreux investissements ont-ils été réalisés ou sont-ils prévus pour déployer les infrastructures haut débit sur l'ensemble du territoire. Le fait que le fonctionnement de l'administration repose sur un cadre traditionnel ne retire rien à la nécessité de repenser ces règles. En effet, celles-ci sont placées dans un nouvel environnement qui leur fait prendre une toute autre dimension que celle qu'elles pouvaient avoir à l'origine. Ceci est particulièrement vrai pour les lois du service public. Par exemple, Louis Roland pouvait-il imaginer au début du XXe siècle que l'usager puisse accéder au service public 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 jours ? Où qu'il soit situé, en France ou à l'étranger. L'avènement de l'administration en ligne le permet désormais, dès lors que l'usager a accès à Internet, que ce soit par le biais d'un ordinateur ou même désormais d'une tablette, voire d'un smartphone ou d'un téléphone intelligent, comme le diraient nos amis canadiens. En effet, on rappellera sur ce point que de nombreux pays développent désormais des téléservices sur téléphone mobile. La France n'est pas en reste avec Proxima Mobile, le portail des services aux citoyens sur téléphone mobile. La continuité territoriale dépasse désormais le cadre du territoire national pour se poursuivre dans le monde entier dès lors qu'un accès Internet est disponible, et la continuité temporelle n'est plus limitée aux horaires d'ouverture des services publics, puisque grâce aux nouvelles technologies, ces derniers sont toujours accessibles, même lorsque les agents ont quitté leur service. L'administration numérique confère donc une toute autre portée à la notion de continuité du service public. Mais cette transformation ne conduit pas uniquement à envisager la perception des principes qui régissent les services publics. Elle incite aussi parfois à revoir les équilibres qui existent entre eux. À la trilogie traditionnelle, égalité, continuité, mutabilité, il faut désormais ajouter de nouvelles exigences, comme la transparence, l'accessibilité, la participation ou la qualité du service public, qui sont apparues notamment sous l'influence du droit de l'Union européenne et des politiques de modernisation de l'administration. Cependant, la transparence est certainement le principe qui a le plus bénéficié de l'avènement de la société numérique pour se renforcer. Cette évolution participe à la mise en place d'une administration moderne. Le modèle administratif français est façonné à un double titre par la société de l'information. D'une part, le numérique, par les possibilités qu'il offre en termes d'amélioration de la gestion des services publics, favorise la réforme de l'État. Il participe aussi à la mise en place d'un gouvernement ouvert. D'autre part, le numérique induit des nouvelles pratiques dans la mise en œuvre des services publics. La réforme de l'État a été caractérisée ces dernières années par la volonté d'améliorer l'efficacité des services publics en rationalisant la gestion de ces derniers. Ce processus poursuit désormais une nouvelle étape en cherchant à mieux associer les différents acteurs concernés et à favoriser la transparence des administrations publiques. Alors que la transparence s'analysait davantage par le passé comme une obligation morale, celle-ci s'est progressivement juridicisée à partir des années 1970 avec la volonté de modifier les relations pour tenir compte à la fois de l'émergence de l'informatique au sein des administrations et ainsi permettre aux usagers d'avoir de nouvelles relations avec l'administration pour faciliter l'accès aux documents administratifs. Cette perspective s'est traduite par l'adoption de deux lois, une loi du 6 janvier 1978 et une loi du 17 juillet 1978. Cette exigence de transparence n'a depuis cessé d'être réaffirmée, mais elle s'inscrit désormais dans un cadre plus large qui concerne l'ensemble des pays de l'Union européenne. Ainsi, l'affirmation d'un cadre transparent pour les administrations publiques a été réaffirmée par l'Union européenne dans la directive PSI de 2003, qui a été transposée en France en 2005. Cependant, ce cadre juridique commun à l'ensemble des pays de l'Union européenne est peu contraignant, si bien que des disparités importantes existent entre les États. Cette absence d'harmonisation a d'ailleurs incité l'Union européenne à déposer en 2011 une proposition de directive modifiant celle de 2003. En effet, la directive de 2003 prévoit uniquement un dispositif normatif minimum en la matière, destiné à s'assurer que la réutilisation des données publiques soit équitable, proportionnée et non discriminatoire, afin qu'elle intervienne dans un environnement de transparence, de libre accès au marché et de concurrence. L'Union européenne laisse en revanche toute latitude aux États membres pour autoriser ou non la réutilisation des informations publiques à des fins commerciales ou non, avec ou sans conditions. Or, de nombreux États n'ont pas souhaité favoriser cette réutilisation des données publiques, alors qu'un consensus se dégage pour affirmer que l'exploitation des données publiques influence favorablement la vie des citoyens et favorise la croissance économique. Au contraire, en transposant ce texte, la France a souhaité retenir le cadre juridique le plus favorable en termes d'administration ouverte et transparente. Cette orientation a conduit à repenser le régime juridique qui avait été fixé initialement par la loi du 17 juillet 1978 et qui prévoyait l'interdiction de réutilisation des données à des fins commerciales. L'abandon de cette législation peu favorable s'est matérialisé par la possibilité pour les administrations françaises de mettre leurs informations publiques à disposition des tiers qui souhaitaient les exploiter à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été produites dans le cadre de la mission de service public. Cette possibilité, offerte par l'ordonnance de 2005, permet à la France de se doter d'un cadre juridique qui ne favorise plus uniquement la transparence, mais aussi une administration ouverte. Si les administrations françaises sont à l'avant-garde des pays qui, au sein de l'Union européenne, émergent, encouragent une administration ouverte, cette perspective pourrait se généraliser à l'avenir à l'ensemble des pays membres, puisque la Commission européenne souhaite leur imposer l'ouverture des données publiques. C'est en effet dans ce sens que la proposition de directive modificatrice de 2011 souhaite aller en essayant d'obliger explicitement les États membres à rendre réutilisables les données qui sont généralement accessibles. Cependant, la proposition de directive semble prévoir une obligation à minima pour les États. En outre, selon la proposition de directive modificatrice, la généralisation de la réutilisation des données publiques ne repose pas uniquement sur une obligation des États membres à ouvrir leur marché, elle suppose aussi l'interopérabilité des données. Il faut toutefois souligner qu'en la matière, la France n'est pas en reste puisqu'elle a adopté en 2009 un référentiel général d'interopérabilité. En outre, il faut souligner que la France se situe au sein des pays de l'Union européenne qui sont à l'avant-garde et qui ont adopté une politique ambitieuse en matière d'ouverture des données publiques. Mais l'avènement ces dernières années de la politique de gouvernement ouvert ou open government a laissé entrevoir de nouvelles perspectives en termes de transparence des administrations publiques. Préconisée par Barack Obama dès 2009, la politique de gouvernement ouvert ou open government dépasse le principe traditionnel de transparence, puisque outre ce dernier, l'open government propose aussi une implication et une collaboration des citoyens. Si en ce domaine, les États-Unis et le Royaume-Uni sont souvent présentés comme les précurseurs, la France n'est désormais plus en reste. Ainsi, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont créé leur portail de données publiques réutilisables, respectivement en 2009 et en 2010. L'État français a également mis en place sa plateforme dès décembre 2011, désormais opérationnelle. La gestion du data.gouv.fr est confiée à Etalab, qui a développé des licences dont le régime juridique est suffisamment favorable pour les réutilisateurs de données publiques. Et donc, ça devrait favoriser à son succès. On ajoutera que cette politique d'ouverture des données publiques s'étend désormais à plusieurs collectivités territoriales, comme les villes de Rennes, de Paris ou encore le Conseil régional d'Île-de-France. La modernisation de l'État implique également de repenser le rôle des acteurs et des bénéficiaires du service public. Là encore, le numérique a permis d'affronter des évolutions importantes en offrant de nouvelles possibilités de production des services publics. En premier lieu, il faut noter que l'administration numérique offre de nouvelles perspectives pour l'usager et redéfinit les relations que ces derniers peuvent avoir avec l'administration. Elle permet aux services publics d'aller au-devant des usagers et à ces derniers d'entrer plus profondément dans le système administratif. Cependant, si notre pays a su se doter d'un cadre légal destiné à favoriser la mise en place de l'administration numérique, sa mise en œuvre est plus difficile du fait de la réticence de certains usagers de recourir aux téléservices. Le taux d'utilisation des téléservices est donc à améliorer à l'avenir. En deuxième lieu, il importe de souligner la nécessaire transformation des modalités de travail des fonctionnaires. À cet égard, il est à regretter que le télétravail soit pour l'instant peu développé dans le secteur public. Son utilisation reste souvent clandestine, locale et transitoire. Pourtant, son recours pourrait constituer un outil de modernisation de l'État et de la gestion de son personnel. Enfin, il est indispensable que l'administration numérique s'adresse aux différents niveaux d'administration. Or, si à l'heure actuelle, elle s'avère particulièrement développée au niveau de l'État et au niveau des organismes de sécurité sociale, des progrès restent à faire au niveau local. Le lien entre numérique et décentralisation me semble pourtant fondamental, s'agissant d'un pays comme la France. En effet, la décentralisation est notre modèle juridique, puisque selon l'article 1er de la Constitution, la France est une république décentralisée. Dès lors, il ne saurait être question de considérer que la France est à l'avant-garde de l'administration numérique, si les collectivités territoriales qui participent à une part active de la mise en place des services publics sont exclues de cette révolution. Certaines collectivités territoriales ont bien compris la nécessité de s'ancrer dans ce processus. Mais il semble désormais nécessaire d'amplifier le mouvement pour parvenir à une véritable décentralisation numérique. Autrement dit, l'objectif est de favoriser le déploiement de plateformes de téléservices qui ne soient plus seulement verticales, État vers les collectivités territoriales, mais qui soient horizontales entre les collectivités territoriales, comme Imégalis ou e-Bourgogne. Il est aussi de mieux associer les collectivités territoriales à la définition de la politique française de l'administration numérique au niveau local. En œuvrant ainsi, il sera possible de mettre en place une administration numérique sur l'ensemble du territoire et qui concerne tous les citoyens. Je vous remercie.
Merci, William Gilles. Donc, est-ce qu'il y a une question dans la salle? À la fin, les questions? Oui, parce que j'ai compté le temps, on avait de quoi. Bon, donc, on va passer tout de suite donc, à l'intervention de M. Marcel Moritz, le modèle allemand dans l'administration numérique. Oui, c'est vous. Oui, vous, c'est le CDE.